Dans le grand magazine Général, on dépoussière l'actualité du territoire.
Ici, pas de pub ni de réclame,
mais un inventaire non exhaustif des initiatives locales.
Au programme,
des invités qui en connaissent un rayon,
un reportage en immersion,
un poil d'actualité musicale,
une rubrique ni pêle-mêle ni fourre-tout.
Le grand magazine Général, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Radio Saint-Fé.
Radio Saint-Féréal.
Radio Saint-Féréal.
Ce soir, on va au bal. Ce soir, on va danser. On sort les tenues de couleur, les jupes qui tournoient, les chaussures souples. On n'oublie pas sa gourde, car ce soir, on va danser. En couple, à 10, à 30, à 1000, on va tournoyer au rythme des cercles circassiens, des chapeloises, des rondeaux, des bourrées, au rythme des valses, des mazurkas, des scottish et des polkas. À 4 temps, à 3 temps, à 1000 temps, en ronde, en chaîne, en ligne, en cortège, on va passer de bras en bras, de corps en corps, un parquet et de la musique à danser, les premières notes, et c'est parti. Bonjour à vous, auditrices, auditeurs de Radio Saint-Féréol. Nous sommes ensemble pour parler pendant une petite heure du bal folk, de sa folie douce, de son renouveau, de son explosion peut-être même. Vous écoutez le grand magazine Général, c'est Sarah qui vous parle sur le 94.2. Il y a Romain à la technique. Et pour aborder le sujet du grand retour des bals folk, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Lionel Thomas, danseur de bal folk. Bonjour.
Bonjour.
Et Séverin Brotte, accordéoniste et danseur de bal folk.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer et s'échauffer un peu, se mettre en jambes, on va entendre la bande-annonce d'un film sans doute bien connu de la communauté du bal folk outrade, Le Grand Bal, de Laetitia Carton.
C'est l'histoire d'un bal, un grand bal. Depuis plus de 27 ans, en juillet, qu'il pleuve, qu'il vente ou sous le soleil, on danse pendant 7 jours et 8 nuits. On tourne, on transpire, on rit, on pleure, on compte les pas. On chante, on se sent seul, on virevolte, on lâche, on attend. On s'agace, on joue, on devient fou, on vit. Compter les regards, le mouvement balbutiant, l'agilité, la simplicité des expérimentés, les lâcher-prise, les libertés que l'on prend, la folie douce, la grande humanité qui défile, la joie qui illumine les visages, les attentes sur les chaises, l'amour qui naît, la fatigue qui tombe, les liens qui resserrent et font tenir debout. Raconter comment c'est différent. Quand on ose enfin se toucher, quand on se regarde, quand on vit vraiment ensemble et que la vie pulse.
C'était la bande-annonce du Grand Bal, un film documentaire de Laetitia Carton qui est sorti en salle en 2018. Et ce bal, c'est le Grand Bal d'Europe, le Grand Bal de l'Europe à Génétine dans l'Allier. Alors dans le grand magazine du jour de Radio Saint-Féréol, nous sommes avec Séverin Brotte, accordéoniste et danseur, et Lionel Thomas, danseur, mais musicien aussi. Et nous allons parler ensemble du bal folk. On va essayer de comprendre ce qu'est le bal folk, d'où il vient, comment il évolue et pourquoi il déclenche un si bel engouement depuis une dizaine d'années. Alors pouvez-vous nous dire chacun, Séverin et Lionel, le lien que vous entretenez l'un et l'autre avec le bal trad et quel rôle vous y jouez au juste?
Je vais commencer.
Lionel.
Le bal folk, pour moi, folk d'abord, quand je suis tombé dans cet univers, j'ai vu qu'il y avait des cours de danse folk à la MJC de mon coin. Et j'ai pensé que c'était en fait des danses sur Bob Dylan, John Baez, Neil Young.
La folk américaine.
Absolument. Voilà, j'avais cette culture-là en contrepoint de l'éducation de musique classique que j'ai eue. Et voilà. C'est très simple. Je cherchais quelque chose dont je pourrais partir si jamais à cette époque-là, ça m'embêtait, sans pénaliser les autres. C'est pas grave. J'ai fait le chèque. J'ai dit... Je vous dois combien, c'est quand, c'est où, voilà. Et donc, le jeudi, à 18h, je me suis pointé au cours de danse. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, il y avait un sas. Et dans le sas, j'ai entendu une musique que je n'avais jamais entendue auparavant et qui ressemblait à quelque chose de classique. En fait, il s'agissait de gens qui étaient tout en cercle, et qui dansait un peu une musique des Balkans, Zigane, je n'arrivais pas à définir. Et là, une petite voix m'a dit, « Mais rentrez, entrez seulement !» C'était en Haute-Savoie. « Rentrez seulement !» Et puis, une fois que je suis rentré, on m'a dit, « Accrochez-vous !» Ah, pour m'accrocher, je me suis accroché, je vous le jure. Je venais du monde de la haute montagne, j'étais souple comme un granit de Chamonix. Et donc, ce fut très dur. Voilà.
Et vous avez commencé à danser à ce moment-là.
Et ça me suffisait. Ça me suffisait. Je ne savais même pas qu'il y avait des balles.
Déjà, apprendre ses pas, ses danses.
Apprendre, c'était une galère monstrueuse pour moi. Parce que les gens étaient partis à droite et moi, j'étais encore à gauche. Et quand j'étais du côté que je pensais être le bon, ils étaient de l'autre. Je pense qu'ils le faisaient exprès. Voilà.
Sûrement, il y avait une stratégie derrière tout ça.
Voilà. Mais heureusement, j'avais, de temps en temps, il y avait des petites pauses, des anniversaires. Et au cours des anniversaires, les langues parlaient. Alors un jour, à la fin du cours, on m'a dit, « Lionel, il y a un bal vendredi, veux-tu venir au bal ? On t'amène. » Quel mystère !
Voilà. Donc ben moi alors c'est j'ai pas un souvenir aussi précis parce que alors je suis plutôt arrivé dans le milieu du folk par mes parents qui faisaient partie d'un groupe folklorique qu'on pourrait définir donc un peu différemment mais qui du coup avait pas mal d'acquaintances et du coup qui nous a fait participer à des bals justement en lien le groupe qui faisait de la musique pour le groupe folklorique faisait aussi de la musique pour du bal et donc naturellement on s'est dirigé vers le bal et moi l'accordéon m'a beaucoup plu donc je suis rentré par le biais plutôt de la musique que de la danse et voilà donc c'est moins précis en souvenir parce que ça remonte pas forcément plus loin mais en tout cas c'était plus diffus mais voilà je suis rentré dans le milieu par l'accordéon voilà.
Et donc aujourd'hui, vous êtes danseur et surtout accordéoniste.
Tout à fait, parce que en fait, du coup, je dansais par contre par avant, mais du coup, de la danse plutôt folklorique, du coup, et pas forcément de... Alors, il y a des similitudes, hein, voilà, j'ai évolué après, du coup, par la force des choses aussi, dans le sens où c'est très bien pour un musicien qui anime du bal de danser, parce que ça lui donne une cadence et qui permet aux danseurs d'être plus... de mieux se retrouver sur les musiques. C'est très difficile de danser sur une musique qui n'a pas de cadence en bal folk. Quoi.
Ouais. Et vous faites partie aujourd'hui d'une formation de musique, un groupe qui fait de la musique de bal.
Donc oui, de plusieurs, mais bon, en tout cas principalement un, qui est le Trio Reflet, donc avec Perrine Priva qui est une prof de danse aussi de bal folk. Voilà, notamment, et Xavier Fernandez qui est guitariste. Au sein de la formation, et aussi sur un groupe local, le Bago Folk, qui est plus un regroupement, on va dire, d'amateurs éclairés, voilà. Plus dans cet objectif-là, alors que le Trio Reflet est plutôt un groupe semi-professionnel, voilà.
Très bien, et on va essayer de définir ensemble ce que c'est qu'un bal folk. Alors, qui veut se lancer ? Lionel ?
Eh bien, je vais me lancer. Le bal folk... C'est avant tout, comment dirais-je, mélanger des danses collectives et des danses traditionnelles. Il a un énorme avantage, à la fois une diversité de danses proposées et de musiques proposées aussi, puisque les musiques viennent quasiment de toute la planète. Voilà. On peut par exemple avoir des musiques cajun qui viennent de Louisiane, comme on peut avoir des musiques des Balkans, voire de plus loin encore. Voilà.
Des musiques traditionnelles.
Oui, complètement traditionnelles. Et par ailleurs, cette diversité, et il y en a pour tous les goûts. On peut avoir des choses, l'auvergnat, il peut trouver dans le bal folk des bourrées auvergnates très traditionnelles, où on tape avec ses sabots, mais aujourd'hui le sabot, on l'a troqué contre des chaussures de danse. Mais on tape quand même parfois, voilà, surtout entre hommes, parce que c'était, il y a eu une évolution pour certaines danses. Des danses d'hommes sont devenues des danses, hétéro. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est la palette qui est offerte. Tout le monde peut danser. Il y a aussi des blocages qui sont tombés dans le bal folk. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut danser, il vous regarde, il vous demande, et en général on dit oui, voilà. Mais on a le droit de dire non aussi, hein, c'est possible. Mais en général on dit oui, et ça peut être génial. Donc voilà, cette approche de l'inconnu. Donc c'est ouvert à tout le monde, parce qu'on peut très bien aller tout seul ou toute seule au bal folk, et on ne sera jamais au fond de la salle en train de pleurer comme on voit dans les bals traditionnels que je pratique par ailleurs, c'est-à-dire des soirées avec de la bachata, des soirées sbeka, ça fait très branché, où là, si vous n'avez pas votre partenaire, vous êtes foutu.
Oui, il y a beaucoup de danses collectives. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de ces danses collectives?
Oh, ben on va commencer par les danses bretonnes, puisque je suis gascon. Les danses collectives les plus simples, ce sont celles qui sont bien connues avec les petits doigts, hein, comme l'andro, voilà, son confrère l'anterdro. Et puis pour les gens qui ont un peu d'énergie, la suite pline, il y a des suites en Bretagne, suite pline, suite de l'oudéac, des choses comme ça.
Le cercle circassien aussi. Alors, un grand classique.
Ah, c'est un classique de chez classique. Oui, le cercle circassien se fait souvent sur des airs à consonance un peu irlandaise, pour ceux qui connaissent la musique. Et l'avantage, c'est pour danser le cercle circassien, il faut savoir compter jusqu'à 4.
Pas évident. Bon,
c'est pas évident, mais on y arrive rapidement. Et c'est vraiment une des danses de base par laquelle on peut vraiment rentrer facilement dans le bal folk. Ça va être un peu K1K, mais ça va bien se passer.
Et dans cette danse, par exemple, à un moment, il me semble qu'on se retrouve à danser avec une partenaire différente, et qu'on, en fait, on goûte au bras de tout le monde.
Pas à un moment, c'est à chaque il y a un mouvement qui fait que pendant toute la danse, on change de partenaire, et donc à la fin, on connaît tout le monde.
À chaque reprise, on découvre.
C'est ça. Et d'autres éléments pour définir peut-être.
Oui, bah, c'est bien une bonne définition. Après, le bal folk, il est multiple, parce que c'est vrai que on a effectivement c'est un peu hérité des anciens bals populaires, et en même temps remanié complètement avec différentes danses, des danses, beaucoup de mixité dans les danses, c'est-à-dire qu'on a affaire à des bals soit très généralistes où les groupes sont capables de jouer un pline breton, une suite gasconne, une mazurka, une scottish, après différents types qui permettent d'avoir quelque chose d'assez hétéroclite mais qui est complet. Et après aussi des groupes qui proposent des bals plus ciblés, donc sur une région du Poitou, sur une région de d'Aquitaine, sur une enfin la possibilité d'avoir quelque chose de plus pointu, entre guillemets, quoi. Enfin, pointu, c'est une façon de parler, hein. Mais en tout cas de plus ciblé, avec des groupes comme Jack Boom par exemple, qui proposent principalement du Poitou, mais qui explique aussi beaucoup une bonne pédagogie des groupes. Souvent, quand ils sont dans un terroir précis, ils arrivent pas les mains dans les poches, entre guillemets, ils arrivent avec des propositions très simples de soit de chorégraphie, c'est un grand mot, mais en tout cas d'organisation de la danse, on va dire, minimum. Et voilà, ça. Et il y a aussi quelque chose à dire quand même, je pense, c'est que il n'y a pas de conditions de personnel très très hautes demandées, c'est-à-dire que globalement la plupart des danses peuvent même être marchées tout simplement. Il y a pas besoin, alors certains vont faire des pas très élaborés, puis d'autres vont marcher tout simplement et vont participer au même titre à la danse et du coup être intégrés très facilement. Voilà, ça c'est une belle particularité du bal folk, c'est qu'il y a pas de niveau minimum requis. C'est le débutant est bienvenu.
Oui, il y a souvent des stages, des ateliers, des cours. Il est courant qu'avant un bal, on puisse apprendre quelques danses dans la journée.
C'est souvent proposé parce que les groupes, du coup, ne serait-ce que déjà pour amortir le voyage, entre guillemets, ont souvent dans le groupe une personne en particulier qui est là pour pouvoir donner des pistes et expliquer certaines danses. Voilà, pour les personnes qui veulent déjà se familiariser. Et puis aussi, des fois, sur de la précision, c'est-à-dire certaines personnes qui ont déjà une bonne pratique du bal vont vouloir aller plus loin, aller chercher du coup un peu plus de des précisions des pas, d'histoire aussi des danses, d'où est-ce qu'elles viennent, qu'est-ce que c'était à l'origine. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et je sais que moi, notamment ma compagne propose des danses comme des stages comme ça, soit des stages très généralistes, soit des stages plus pointus, où voilà, on peut faire. Il y a pour tous les niveaux, quoi, entre guillemets. Voilà.
Et baltrade ou bal folk, où on peut parler des deux de manière indifférente
Eh bien, je vais essayer de répondre à cette douloureuse question. Je suis à la fois un danseur de danse trad et un danseur de danse néo-trad.
Aïe, ça devient très compliqué. On en est déjà à la question de néo-trad.
Voilà. Alors, comme l'a dit Séverin, ce monde-là est en constante évolution. C'est avant tout quelque chose d'ouvert, un espace d'ouverture à tout point de vue. Et donc, on essaie. Il y a des gens qui sont trad. Pourquoi ? Parce qu'il y a des danses qui sont restées telles quelles, qui ont passé à travers les âges et qui n'ont pas beaucoup bougé. Par exemple, nous dansons le rond d'Argenton. On a des preuves sur les tapisseries, sur les descriptions écrites de l'époque. Quand on danse le rond d'Argenton en bal, où l'on chante d'ailleurs, où on reprend le refrain, eh bien c'est une danse du 15e siècle. Voilà. Mais elle a beau être du 15e siècle, on s'amuse bien. Voilà, donc je précise, on le fait souvent, et beaucoup de gens ne savent pas qu'elle vient du 15e siècle. Voilà. Et que ça a perpétué, ça a duré, ça vient d'Argenton-sur-Creuse, dans l'Indre, en fait, direct. Voilà. Et par contre, au niveau du trad courant, que les gens connaissent, tout le monde connaît la bourrée d'Auvergne, voilà. Et c'est vrai, la bourrée n'a jamais arrêté. Elle a été remise au goût du jour par un musicien de l'Aveyron, qui s'appelle Jean Ségurel, qui l'a mis dans le domaine du musette. Et du coup, c'est une danse qui, à travers le musette, est restée vivante et a été reprise par le réseau trad. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a des origines, il y a des parcours de danse qui sont parfois très sinueux. Voilà.
Pour compléter, il y a une période un petit peu creuse où finalement les principales danses qu'on traversait, c'est des danses qui avaient dans des régions souvent qui avaient des fortes identités régionales. Mais aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit depuis une dizaine d'années que finalement des musiciens et des passionnés localement recreusent un peu dans leur région et font émerger de nouveau des choses qui étaient complètement enfouies. Je pense à la musique du Poitou qui est pendant longtemps restée complètement Vendée Poitou. On trouvait rien. Aujourd'hui, il y a eu un gros renouveau dans la région locale aussi, hein, par rapport au Rigaudon, des choses comme ça. Les frères Vargos ont remis au goût du jour des très belles musiques et des façons de danser qui étaient locales. Voilà, on assiste aujourd'hui à vraiment une recherche des origines de chaque endroit, ce qui est assez intéressant aussi, avec toujours un œil quand même novateur sur la chose pour aussi intéresser les gens aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments de ringardisation un peu de ces danses, de ces musiques, notamment par le biais un peu des groupes folkloriques aussi, hein, qui ont pu avoir des approches très 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 pointues sur des chorégraphies, des choses comme ça, mais qui en final reflètent assez peu la vérité de l'époque, qui était quand même des balles assez dégingandées, on pourrait dire.
Dégingandées ?
Oui.
Ouais, c'est-à-dire ?
Assez foufou.
Assez foufou, d'accord, un peu déglingué.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Oui, folklorique, ouais, ça vous faisait réagir, Lionel ?
Ce qui me fait réagir, pour compléter Séverin, c'est que, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une coupure pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que beaucoup sont décédés, et puis après ils avaient pris de l'âge, et ceux qui ont survécu, etc. etc. Par contre, ce qu'on peut dire de la danse folk, d'un point de vue général, c'est qu'il y a eu un phénomène de revivalisme qui s'est manifesté consécutivement en mai 68. Dans les années 70, des gens aussi importants qu'Alan Stivell, le breton, le bard breton bien connu, que des gens comme le groupe Malicorne avec Gabriel Yacoub et d'autres encore que je passerai sous silence, ont eu une importance tout à fait fondamentale. Et du coup, il y a des gens qui sont allés faire du collectage, c'est-à-dire aller voir le papy, la mamie du coin, si elle connaissait un bout de chanson. Ah oui, je m'en rappelle. Voilà. Et du coup, ça s'est fait. Alors avec des caméras Super 8 à l'époque, des entretiens avec des gens qui parfois avaient le genou qui partait un peu de côté. Mais tout ça a été collecté, a été ramassé. Et aujourd'hui encore, on essaie de ramasser, on va. Il y a des gens qui vont à la pêche dans les archives départementales, qui mènent un travail de fourmi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui nous nourrit, et du coup qui donne des idées. Donc il y a à la fois ce collectage, et il y a à la fois des gens qui écrivent en permanence. Mais des gens, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui ont la vingtaine, qui vont aller écrire des textes, par exemple écrire un texte pour un branle d'ossau, une danse traditionnelle des Pyrénées, et qui vont l'écrire, bien sûr, en gascon, non pas en français. Voilà. Mais c'est valable pour toutes les régions de France. Il peut très bien y avoir des Bretons qui vont écrire en breton et qui ont 30 ans. Voilà. Et même si c'est des Bretons qui écrivent en français, voire des Gascons qui écrivent en français, tout va bien. C'est vraiment, vous voyez, il y a beaucoup d'élasticité dans l'affaire.
Ce que je trouve intéressant, c'est que donc il y a eu des grandes époques de bals, mais à la fois dans les milieux aristocratiques, les danses de salon, les mazurkas, les valses viennent de là, et puis des danses du milieu rural au moment où ce milieu était très très vif, très 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 vivant. Et puis, donc, toutes les bourrées et les autres danses viennent de ces milieux-là. Et puis, à un moment, ça disparaît et puis ça revient. Les milieux ruraux sont en déclin, l'agriculture traditionnelle est en déclin. Ces traditions disparaissent, puis elles sont redécouvertes. Et elles sont retransmises dans les années 70, comme vous le dites. Mmh. Mais ce qui m'amène la question, est-ce que ces bals folk brassent tous les milieux sociaux, étant donné qu'ils sont héritiers de ces différentes sociétés, de ces différentes classes sociales.
Franchement, on peut dire que le bal folk, parmi ses particularités, il mélange des gens de tous univers, et il mélange surtout, c'est un fabuleux mélange intergénérationnel. Donc, on arrive à voir dans les cercles circassiens, dont on parlait tout à l'heure, parfois les gens ils viennent avec leur petit, et le petit ou la petite fait ses premiers pas, ou sa première petite valse avec maman, en se tenant avec les deux mains, et en route. Quoi de plus naturel, hein ? Il faut transmettre derrière. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire perpétuer ce mouvement qui est, à mes yeux, génial et fantastique.
Est-ce que...
Si je peux rajouter une chose aussi que ça me fait penser. Oui. On y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le bal folk, c'est que les gens qui viennent là sont intéressés par la musique, la danse. Et du coup, on a un regroupement de gens qui sont assez bienveillants, justement, là-dessus. On vient pas là pour boire un coup, par exemple, comme ça peut être dans des bals populaires, des choses comme ça, où ça se terminait souvent en bagarre ou tout ça, parce que tout le monde avait trop picolé. Là, on est sur quelque chose. On fait pas des grosses buvettes en bal folk, hein, pour les organisateurs, c'est pas. Mais par contre, c'est un côté qui est rassurant, et on peut avoir 500 ou 600 personnes au même endroit. Sans débordement, c'est très respectueux, globalement, je veux dire, des uns et des autres, voilà. Quel que soit le milieu et la classe sociale, parce que finalement, on a affaire à des fois des instituteurs retraités, il y a aussi des punks à chien, pour aller vraiment d'un bout à l'autre, voilà. Et tout ça dans une bonne ambiance, quoi.
Et puis quand on danse, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de parler. On danse, on passe d'une danse collective à une danse de couple, et puis ça peut durer comme ça très très longtemps. Donc c'est pas un espace où chacun dit ce qu'il fait dans la vie, où il y a quand
le
même
temps passe
ce... le temps passe vite, et puis c'est quand même des rencontres de corps dans la musique. C'est, on est un peu, c'est un autre espace social et de rencontre, j'ai l'impression.
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, ces temps de partage un peu en dehors de la danse ou à côté, on les retrouve davantage dans les festivals, puisque dans les festivals, il y a des moments de respiration entre deux ateliers, entre deux balles ou à la buvette simplement. Hein, voilà.
À la buvette, on boit de l'eau, on l'aura compris.
Oui, parce qu'en fait, l'alcool et la danse font pas bon ménage. Donc,
on a du mal à tenir les lignes, les cadrettes et les.
Et j'oublie un paramètre, c'est la fatigue. Quand vous, voilà, par exemple, si vous faites le Grand Bal de l'Europe en entier, c'est 15 jours de danse et d'atelier, sans compter la chaleur, etc., etc. Donc, ça attaque l'individu. Ça, vous pouvez me croire. Voilà.
Oui, donc respect et sobriété dans ce monde-là.
Oui, oui, franchement, de mémoire, ça fait à peu près plus de 15 ans que je danse. Je n'ai jamais vu quelqu'un en état d'ébriété.
Et pareil pour moi. C'est, le seul qu'on a vu, c'est des gens qui arrivaient de l'extérieur et qui se sont trompés d'endroit.
Voilà. Alors, on parlait de brassage de milieux sociaux. On a tout petit peu parlé du néo-trad. Pour aller vite, le néo-trad... Est-ce que ce serait une branche du bal trad, du bal folk, moins populaire, plus élitiste, ou c'est pas le cas? Est-ce qu'il y aurait comme un clivage, une spécificité?
Alors je vais essayer de répondre, puis je donnerai la parole à Séverin. En fait, le néo-trad, non, je suis un danseur néo-trad. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas assez néo-trad en France, et je suis aussi, je suis, parmi mes qualités, un danseur de mazurka italien. Voilà. J'étais à Milan lors de la première mazurka clandestina qui s'est faite, avec des règles bien précises. Le but, c'était d'investir l'espace public et de faire se rencontrer les gens au lieu qu'ils restent chacun dans leur immeuble, devant la télé. Donc, il est vrai qu'en mazurka clandestina, on danse très près, très, certains vont dire, très caliente, les corps étant passablement imbriqués l'un dans l'autre. Au niveau des pas, de la danse, c'est avant tout, ce qui compte, c'est le ressenti, c'est l'émotion. Voilà, ce sont ces valeurs-là. On n'est pas dans le pas juste, comme on voit en danse de salon.
Oui.
Voilà. Et malgré tout, les musiques sont néo-trades. Pourquoi? Parce que il n'y a rien vraiment de particulier, puisque le folk, il n'y a pas de musique, de règles au niveau musique. On peut mettre aussi bien du xylophone, par exemple, que mettre de l'accordéon, que mettre du violon ou de la cornemuse.
Ou de la guitare électrique.
Ou de la guitare électrique, si vous avez envie, voire de la basse. Mmh. Ça existe.
Électro-trad.
Oui, tout est possible. Il y a vraiment une palette absolument folle, et il y en a pour tous les goûts. Et à côté de ce néo-trad, ben, vous avez d'autres choses que les gens apprécient, comme le breton bretonnant, comme le gascon gasconnant. Voilà, pourquoi pas.
Oui. Oui. Moi, pour compléter, oui, enfin, oui. C'est ce que je pense aussi. C'est, on a plus affaire à une branche qu'à une évolution. Je pense qu'il y aura, c'est un peu comme une région supplémentaire, on va dire, entre guillemets, une région peut-être plutôt métaphysique, mais en tout cas, c'est pas une évolution. Il y a des personnes qui veulent toujours faire plutôt des choses qui sont plus traditionnelles, d'autres un peu moins. Voilà, je le vois plus comme une évolution qui convient à certains. Voilà.
Mais nous cohabitons allégrément les uns et les autres dans les festivals. Dans les festivals, il y a souvent un mélange de palettes en tout genre, voilà. Du trad, du un peu moins trad, voire du néo-trad.
Pour attirer tout le monde.
Voilà, tout ce beau monde se mélange. Hein, et puis parfois, c'est pas interdit, quand on est un peu partisan de tel ou tel courant, d'aller voir ce qui se fait un peu par ailleurs, et d'aller rendre visite. Et parfois, ça peut être sympa.
Et le bal de l'Europe est une bonne expression de ça, notamment. Il s'y côtoie beaucoup de choses différentes.
Le bal d'Europe dans l'Allier, ouais, avec une programmation très, très européenne, internationale, hétéroclite, avec des plages pour les régions métaphysiques.
C'est ça.
Ouais. Et le vent de liberté, trad. On va entendre maintenant une bourrée auvergnate pas du tout néo-folk, extraite de l'album Le Bal Musette du Beau Milo, orchestre musette à l'ancienne de Lille et de ses environs. Vous êtes sur le grand magazine Général et on parle du bal folk avec Sébrin Brotte, accordéoniste et danseur, et Lionel Thomas, danseur. On vient d'entendre une bourrée auvergnate qui nous a plongé dans le musette des origines. Alors j'ai entendu une phrase dans une scène coupée au montage, je crois, du film Le Grand Bal de Laetitia Carton. Une personne, un ancien je crois, a déclaré « Avant on apprenait des danses, aujourd'hui on apprend à danser ». C'est une phrase qui m'a marqué, qui m'a interpellée. Avant, on apprenait des danses. Aujourd'hui, on apprend à danser. Est-ce que ça veut dire qu'on a désappris à danser pendant un moment? Comment est-ce que ça vous évoque des choses, cette phrase?
Du point de vue de l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une coupure après la Seconde Guerre mondiale pour beaucoup d'endroits de France, voire d'Europe. Du point de vue de l'enseignement de la danse est toujours enseignée du mieux possible, avec une certaine religiosité, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir, on essaie de respecter les pas. C'est la base. La base, c'est... Il y a une base, on fait les pas. Et ensuite, la danse, on se l'approprie. Chacun se l'approprie en fonction de la forme du moment, de son ressenti. Vous avez des gens, par exemple, prenons l'exemple des valses. Il y a des gens qui valsent tranquilles, très doucement, parfois sur une musique qui peut être rapide. Voilà, ça existe. On ne la veut pas pour autant. Voilà. Ce qui compte, c'est avant tout que l'on reste un petit peu dans le cadre de la danse, voilà, et surtout qu'on la fasse vivre. Je vois souvent, moi je suis attaché aux danses traditionnelles de ma région, et le reste, je suis très élastique, mais sur ma région, parfois je pleure. Parce que je vois faire un peu n'importe quoi, et parfois par des gens qui pensent qu'ils connaissent, mais ils n'y ont jamais été. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a un musicien célèbre qui est breton qui a commis un attentat sur le rondeau en chêne, et que l'on danse maintenant partout en Europe en allongeant les bras, en tirant, en courant le plus vite possible, enfin, un truc machin chose qui m'horripile.
Scandale. Bon,
oui, mais j'ai eu l'occasion de lui dire, maintenant il le sait. J'aurais préféré qu'il vienne un peu en Gascogne voir comment on danse le rondeau en chêne. Ça aurait été une meilleure démarche. Voilà. Mais par ailleurs, la transmission des danses se fait avec des gens qui font l'effort d'aller apprendre la danse sur les sites, pour la plupart d'entre eux, de faire refaire des ateliers, de discuter. Il existe des différents forums comme ça pour discuter entre maîtres de danse. C'est un titre que je leur donne, mais ils n'en voudraient surtout pas. Et l'idée, c'est de transmettre du mieux possible, quoi, et de respecter. Dans le monde de la danse folk, tout le monde se respecte et tout le monde respecte la musique, la danse, que ce soit du néo-trad, que ce soit du trad, ainsi que les petits pas que chacun fait.
Oui, pour continuer dans le même sens, aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de... Au niveau de l'apprentissage, de toute façon, des danses, c'est des personnes qui l'ont appris d'autres personnes, qui l'ont appris d'autres personnes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de danses qui sont codifiées en folk. Hein. Certains peuvent se les codifier pour des chorégraphies spécifiques, pour un groupe folklorique notamment qui voudrait faire une chorégraphie spécifique. Donc là, ils le choisissent de le faire, ils le codifient. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vérité. Il y a simplement différentes vérités. Et donc du coup, aujourd'hui, en fonction du maître de danse que vous aurez, vous allez apprendre la danse d'une certaine façon. Donc effectivement, l'idée, c'est d'aller de voir le plus de monde possible pour après finalement se faire son choix, se dire je préfère la faire comme ça, mais sans dire que je la fais comme il faut. Bon, voilà, je le vois plus comme ça, quoi.
Et est-ce qu'il y a un engouement là, on a eu 3 ans sans danser. Peut-être que l'engouement était déjà là avant. Est-ce que ça date de 10 ans? Est-ce que ça grandit encore? Est-ce que les balles trad folk ont tendance à attirer de plus en plus de monde?
Moi, je pense
que ça se démocratise. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre?
Moi, je pense que ça fait une vingtaine d'années que ça évolue, où il y a de plus en plus de monde, sans que ça explose non plus, parce que ça reste assez confidentiel malgré tout, avec une volonté de rien imposer, donc forcément pas de volonté d'être la nouvelle mode entre guillemets. Donc c'est pour ça, mais par contre il y a de nouvelles personnes qui arrivent encore et toujours, et ça c'est ce qui est positif. Et donc je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a plus de monde aujourd'hui qu'il y a 20 ans en arrière. Il y a plus d'offres aussi, et il y a aussi une qualité d'offre qui est montée, c'est-à-dire là où il y a 20 ans en arrière, finalement les gens faisaient comme ils pouvaient parce qu'il n'y avait pas beaucoup de... Il n'y avait pas eu beaucoup de recherches, il n'y avait pas eu beaucoup, donc ça se regroupait autour de personnes qui étaient motivées pour faire quelque chose, mais on va dire que c'était quand même très très hétéroclite. Aujourd'hui, on peut plus facilement chercher et trouver, et trouver ce qui nous correspond un peu. Voilà, je pense que là, c'est là où ça a évolué, c'est que sans être structuré, aujourd'hui, il y a des fédérations qui sont créées des choses qui sont appuyées par les collectivités, tout ça, le CMTRA qui est un organisme qui récolte des données, qui met en, justement, il y a des personnes qui sont payées pour chercher dans les archives, pour mettre en forme, pour que ce soit accessible facilement
au grand public. Ces collectages,
tout ça.
Des musiques, des mélodies, des paroles.
En Ardèche, notamment, j'ai des collectages qui ont été collectés depuis un moment, puis qu'aujourd'hui commencent à être plus faciles d'accès qu'à une époque où il fallait finalement connaître les gens pour aller demander. Voilà. Là, aujourd'hui, sur les sites, en recherchant très facilement par Internet, on peut avoir accès à beaucoup, beaucoup de bases de données et beaucoup de choses qui ont été récoltées à une époque où il y avait encore des gens qui avaient vu ou qui avaient connecté. notamment dans les Hautes-Alpes, où il y a, jusque dans les années 30, on avait encore des violoneux, donc pas des violonistes, des bien violoneux. C'était un ensemble de deux violons qui passaient de village en village et qui faisaient du bal populaire. Et donc c'est par ces biais-là qu'on a réussi à avoir des choses, finalement. Dans les années 30, on a encore des personnes qui sont nées encore dans ces années-là. Donc il y a plutôt 20 ans en arrière, parce qu'aujourd'hui, ça devient très très rare, des gens qui l'ont vu de leurs yeux. Mais en tout cas, des personnes sont allées interviewer ces gens. Et on a du matériel aujourd'hui sonore, et voilà.
Qui témoigne de tout ça. Et violonneux, c'est une manière modeste
C'est l'appellation qu'il y avait. Alors
les folkeux.
En fait, c'était le violon pour la danse.
Voilà. Le violon pour la danse, oui. La musique à danser.
À l'inverse du violoniste qui était plus classique, oui. On va dire.
Et est-ce que vous avez l'un et l'autre, côté danse et musique, des préférences, une spécialité, quelque chose qui vous transporte?
Bien, puisque je suis un mazurcaro italien, c'est-à-dire un danseur de mazurka clandestine, je dis souvent par provocation, quand je suis lancé comme ça, mais je n'en pense pas un traître mot, que je ne danse que pour la mazurka, et que le reste, je m'en fous. Je serais prêt à danser qu'un poteau. Ce n'est pas vrai, bien entendu, hein, mais... j'adore la mazurka, c'est vrai. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens l'aiment et l'apprécient. Mais pour moi, un des plus grands défis en matière de danse, ça a été d'apprendre la valse. Honnêtement, j'étais pas bien doué.
Pas si simple la valse, apparemment, mais pas si simple.
Oui, puis en fait, je l'ai appris complètement dehors du réseau Trad. Je l'ai appris avec ma marraine et mon tonton. Et qui eux ont dansé toute leur vie et dans les bals, et qui en fait se sont connus dans les bals de la Libération. Voilà, ils sont connus à travers un bal de la Libération. Et d'ailleurs, mon papa était là et surveillait sa sœur. Ça s'est fait comme ça.
Ah là là, voilà. Une famille.
Ouais.
Une famille de bals, une famille de fêtes.
Voilà, voilà. Et du coup, j'ai eu le déclic. On est allé chercher les vieux disques de valse qui traînaient là, sous la chaîne. Mon tonton ne pouvait pas se baisser, il avait le genou en patote. Et du coup, ce soir-là, c'était le déclic.
Et c'est vrai.
J'aime beaucoup la mazurka aussi, mais j'ai une préférence pour la valse. La valse, j'ai toujours bien aimé. Donc ce serait ma favorite, mais bon, j'aime bien tout quand même.
Donc valse à l'accordéon.
Et valse à l'accordéon ou au violon, très belle valse aussi. Mais valse à danser, voilà. J'ai une petite préférence pour la valse.
Et est-ce que vous auriez un petit souvenir de bal à nous raconter, un bon souvenir de bal?
Ouais, je vais en raconter deux. Le premier et le deuxième. Le premier, je me trouvais dans le plus grand festival italien où jouait un musicien français avec son groupe, qui est d'ailleurs mon ami. C'est un musicien très connu et les Italiens, c'est Godon, enfin c'est un dieu, il est plus connu que le pape et l'avant-centre du Milan AC. Donc, changement de plateau, le groupe du bal précédent s'en va. Et je vois arriver des filles qui se mettent sur le côté, qui s'assoient. Et puis il y en a une, elle reste debout et elle commence toute seule à montrer à l'autre qu'elle fait une valse impaire. En l'occurrence, une valse à 5 temps. Et en la regardant danser, je me suis dit, il faut absolument que je l'invite. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est parasolesque, c'est-à-dire... une danseuse idéale pour danser sur le groupe Parasol. Voilà. Et donc, évidemment, le groupe arrive et je l'invite. Et là, franchement, ça a été magique. J'ai dansé la valse à 5 temps avec quelqu'un qui me souriait en permanence, en lévitation, 1,50 m au-dessus du plancher. Et toute la valse était... Je me suis dit, Lionel, t'es complètement malade. T'as pris un coup de jour, remets-toi. Donc, je pars danser un truc ou deux avec d'autres. Ça se passe très bien. Et puis, je me dis quand même, avec qui vais-je danser maintenant? Et qui je vois arriver? La fille qui revient m'inviter, toujours avec le même sourire. Et là, c'était autre chose, c'était une scottish. Et là, c'était pareil. Pareil, la même chose. Nous avons fait deux danses. Je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était l'instant parfait. Parfait. Et à la fin de la danse, je la remercie. Un peu plus tard, après le bal, je la croise avec une amie à elle. Elle se dit tranquillement sous les ombrages. Je vais la voir pour en avoir le cœur net. Et je lui demande. Et je lui parle en italien. Elle ne comprenait pas l'italien. J'essaie en anglais et elle me répond en allemand. C'était une autrichienne. Et je lui dis, mais comment c'était la danse pour toi? Elle m'a dit, pour moi, c'était magique. Et en fait, c'était deux filles qui étaient copines, voilà, entre elles, de très près. Mais ça n'enlève rien. C'était un pur moment de magie, quoi. Voilà. Et surtout, nous en sommes restés à deux danses. Je ne voulais pas casser la magie. Une autre anecdote, c'est très simple. Je suis en ce moment avec la présidente d'une association, je vis avec la présidente d'une association de danse sur Eure, à côté de Cré, qui donne des cours d'accordéon et des cours de danse folk. Et cette fille-là, elle m'a repéré avant moi. C'est pas moi qu'elle a repéré, elle a repéré mon pantalon. En fait, je portais des pantalons blousants, un peu hindou-népalais.
Coloré.
Et comme je ne faisais que danser, coloré bien sûr, et comme je ne faisais que danser, elle se souvenait de mon pantalon. Et l'année suivante, je vais à Tradardèche, à Privas, et moi je ne l'avais pas du tout invitée. À Tradardèche, je repère cette fille qui dansait breton. Et moi, je n'aime pas danser breton. Eh bien, je ne sais pas quelle est la magie qui s'est produite. Toujours est-il que nous vivons ensemble aujourd'hui.
Très bien.
Ouais, alors là, un petit silence pour savourer tout ça et laisser ces images flotter, disparaître un peu.
Voilà, ben moi, j'ai le souvenir que j'ai plutôt du côté musicien, du coup, sur un festival aussi où on jouait. Puis on a eu sur un pline qui est une danse bretonne qui est très rythmée, et du coup il y avait 200 personnes qui dansaient et qui dansaient en cadence, du coup sur le même, et ça faisait un mouvement de respiration de la salle qui était assez phénoménal, qui portait vraiment il y a vraiment un échange entre les musiciens et les danseurs sur entre la scène et le, il faut être très proche au final, plus on est proche et meilleure l'alchimie est au niveau du rendu et de ce que ça peut procurer et aux musiciens et aux danseurs. On joue pas de la même façon dans un studio que sur une scène où il y a 200 personnes ou 300 dans la salle, et donc voilà, ça c'est un des très très bons souvenirs que j'ai eu partagé avec d'autres musiciens aussi.
Merci pour ces trois histoires. On va entendre maintenant un morceau qui s'appelle Momentos Mazurka, à propos de Mazurka, qui a été joué au festival Raiz da Aldeia en 2012, un petit festival au Portugal d'art et de culture traditionnelle. Thank you. Alors c'était Momentos Mazurka, un beau morceau qui nous laisse songeurs, songeuses, et qui laisse imaginer ce que des danseurs et danseuses peuvent vivre lorsqu'ils dansent sur de telles musiques. Vous êtes sur le Grand Magazine Général et on parle du bal folk, de son renouveau, de sa renaissance même, de son retour en tout cas, avec Séverin Brotte, musicien, accordéoniste, et Lionel Thomas qui est danseur. Alors ce morceau qu'on vient d'écouter, cette mazurka, ce serait l'équivalent du slow ou la valse serait l'équivalent du slow? Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Le morceau que nous venons d'écouter est un morceau du point de vue musical écrit d'une façon parfaite. Les 12 temps de la mazurka sont respectés, voilà, tel que nous la dansons en Gascogne, puisque en fait la forme traditionnelle de la mazurka qui en fait arrive d'Europe centrale, qui est arrivée avec les soldats, hein, qui sont revenus dans leur pays, et notamment en Gascogne, ça a donné lieu à une chorégraphie bien particulière. Et du coup, là, la mazurka, pour le coup, elle est à la fois traditionnelle par sa forme musicale et un peu néo-trade. Voilà.
Ah oui, je vois. Là, c'était une application de notre discussion. En entendant ces notes, on se dit, est-ce que beaucoup de rencontres se feraient dans ces bals? Je pense que les comparer au rallye, ce serait exagéré. Autrefois, dans les bals, les hommes cherchaient une femme, les femmes cherchaient un homme, mais c'était aussi dans des villages qui étaient loin les uns des autres, donc c'était l'occasion de tournoyer ensemble. Voilà, est-ce que c'est un lieu de rencontre? Est-ce que c'est un lieu de danse où on ne fait que danser? Est-ce que c'est tout ça à la fois?
Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. Alors, il est vrai que, ouais, forcément, comme toute rencontre, on peut s'attendre à tomber aussi sur la personne que l'on a envie de rencontrer. Après, là où c'est un peu plus nuancé, je pense que les gens qui vont au bal, d'abord, dans un premier lieu, cherchent plutôt à aller danser. Mais après, il n'est pas interdit que... voilà.
Et
les choses se poursuivent.
On a pu entendre l'histoire, le récit de Lionel tout à l'heure, qui nous donnait quelques pistes sur ces possibilités. Et Lionel, je voulais vous interroger sur l'évolution des bals, dans justement cette idée qu'on peut se faire, qu'un homme va inviter une femme, que la femme va attendre. Tout à l'heure, on parlait de faire tapisserie dans son coin en attendant d'être invité, mais que non, les bals, ça se passe différemment. Est-ce que les femmes invitent les hommes? Est-ce que les femmes invitent les femmes? Est-ce que les hommes invitent les hommes? On en est où dans le bal?
Alors, je pense que le bal folk, c'est un formidable vecteur de liberté. À la preuve en est, je fais d'autres danses, des danses dites de salon, comme le rock'n'roll ou la bachata. Et à travers le bal folk, on peut très bien occuper en tant qu'homme le rôle de la fille, et pourquoi pas la fille occuper le rôle de l'homme. Il n'y a pas de mal à ça. Et d'ailleurs personne, aujourd'hui les mentalités, en tout cas au niveau du folk, hein, je dis bien, au niveau des gens qui pratiquent, qui dansent ou qui font de la musique, personne n'y voit de mal. Vous avez des grands gaillards avec de belles jupes, souvent des jupes un peu inspirées des arts martiaux, un peu taekwondo, kendo, enfin des choses comme ça un peu. Parfois ça peut être plus bariolé.
C'est à l'aise.
Voilà. Mais personne n'y voit de mal. C'est... voilà. Et moi, quand je vois un grand gaillard qui occupe la rôle de la fille, par exemple, dans une chapeloise, j'adore faire tourner les filles. Et là, comme c'est un grand barbu, je le fais tourner encore davantage.
Ni pêle-mêle, ni fourre-tout.
Ni pêle-mêle, ni fourre-tout.
Une rubrique, ni pêle-mêle, ni fourre-tout.
Alors Benoît, quelque chose se trame bientôt à la pleine lune?
Oui, effectivement. Depuis 11 ans maintenant, la brasserie officie. Donc nous n'avons pas pu fêter les 9 ans, les 10 ans, les 11 ans. Les 11 ans, nous allons les fêter justement. Donc 9 plus 10 plus 11, ça va faire 30 ans. Et pour l'occasion, on vous a préparé une grosse fête d'anniversaire. Alors c'est pas une fête de la bière en tant que telle, c'est plus une grosse kermesse où on cherche en fait à nous, en tant que Brasserie de la Pleine Lune, à dire merci à nos clients, Voilà où on en est après quelques années. C'est grâce à vous. C'est grâce à ces bières que vous buvez, parce que nous les brassons. Nous nous levons tôt pour que vous vous couchiez tard et heureux. Donc on a un gros planning. On a fait des ateliers de pairing un petit peu, donc des accords mets-bières, des vis de la brasserie. Donc ça, c'est pour le côté un peu bière. On a invité Archijeu pour vous faire jouer un peu toute la journée. Il y a des clowns qui vont faire des spectacles, des ateliers de maquillage. On va faire avec Atypique Bois un dôme géodésique, c'est-à-dire qu'on va le monter. Donc il y a des circuits de petites voitures pour faire des courses de petites voitures. Le Valence Atelier Livre va aussi faire des petites animations. Le sauna mobile de Somnambule. Les fanfares et Batucada toute la journée aussi. Et clou du spectacle, la compagnie Trans Express qui vient avec son mobilhome. Donc à partir de 21h30. Voilà. Donc et après ça, nous allons continuer forcément à danser un petit peu jusqu'à 1h du matin. Tout ça avec quelques bières, forcément, le bar de la pleine lune et le bar des copains, puisque nous avons demandé à plusieurs de nos copains brasseurs de nous vendre un petit fût pour que vous puissiez les déguster. À côté de ça, il y a des expositions et bien sûr, pour que vous puissiez manger, il y a des food trucks.
Merci beaucoup Benoît d'être venu. Si vous avez une furieuse envie de danser, après avoir écouté ce plateau, dès aujourd'hui, dès ce soir, la nuit du Folk d'Ivoise à Châtillon-en-Divoise continue jusqu'au 28 mai et toutes les infos sont sur le site de Folk en Divoise avec des stages et des animations en journée. C'était Sarah à l'animation du Grand Magazine Général. Je remercie Séverin Brott et Lionel Thomas, Benoît, pour leur sens de l'improvisation et merci Romain à la technique. Nous étions en direct sur 94.2. Vous pouvez réécouter cette émission demain vendredi à 8h ou bien en podcast sur notre site radiosaintfé.com, rubrique Nos émissions, le Grand Magazine Général. Un grand merci à tous les trois. Très belle journée à vous et n'oubliez pas de danser.